Bonjour Boston.
And good morning Cambridge and the entire world through the magic of the internet.
This is Eve.
Brian here on the other mic.
And we're here to bring you music from the French-speaking world every Wednesday morning on WMBR Cambridge. It's French Toast.
Most of the music is in French, a few curves thrown in here and there.
Yes, and we started this show with a different different version of Encore un Matin, a song that was our theme song for quite a long time. Just because it came out, there is the second volume of Génération Goldman, today's singers, singing the songs of Jean-Jacques Goldman, and this was Zao singing Encore un Matin, a good song to wake up to. In the first hour of today's show, we'll have new and old music to present to you. In the second hour, the theme of the show will be Jacques Brel with our special guest. Brian, would you like to tell us?
Yes, we'll have direct from France by phone. We'll have an interview, a conversation with Fred Hidalgo, who's just brought out a book about 2 to 3 weeks ago in France called Jacques Brel, L'Aventure Commence à l'Aurore, about Brel's the last 4 years of his life spent mostly in Les Marquises, islands, French islands out in the South Pacific, and it's an extremely well-documented book, 384 pages worth, and Fred Hidalgo is also well-known to anybody who's interested in song. He was the editor, rédacteur en chef of Parole et Musique for 10 years, then of Chorus for 10 years, the revue de référence on song, not only French song, but largely French song, and has brought out several books in the past also, like Putain de Chanson and a number of others which he published, including a very good book on Jacques Brel written by Marc Robin, who was one of the collaborators on Chorus for many years, and a fine singer-songwriter in his own right as well as a fine writer.
So Fred Hidalgo will be joining us in about an hour to talk about Jacques Brel and his last few years spent in the Pacific. Vous écoutez French Toast et aujourd'hui nous allons retrouver en direct de Paris dans un instant Fred Hidalgo, journaliste, chroniqueur de la chanson française depuis de bonnes décennies. Brian.
En fait, Fred n'habite pas Paris, il habite à un petit hameau pas loin de Dreux, un peu à l'ouest de Paris, mais c'est un féru de la chanson, un connaisseur, un fin connaisseur qui a pendant 10 ans édité Parole et Musique, ensuite 10 ans édité Chorus, a écrit des livres comme Putain de Chanson, sorti des livres, publié des livres écrits par d'autres, y compris un livre, un beau livre sur Jacques Brel de Marc Robin, un des collaborateurs de Chorus, mort trop tôt, qui était d'ailleurs lui-même auteur-compositeur-interprète de bon, très bon niveau. Et Fred connaît Brel sur le bout des doigts, et il est allé chercher pour comprendre les dernières années de la vie de Brel, et il est allé jusqu'aux Marquises avec sa douce et tendre, comme il dit, Morissette, pour découvrir Brel aux Marquises, et il va nous en parler après cette chanson, Les Marquises.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux Marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises.
Jacques Brel, Les Marquises.
Très bel album qui s'appelle Les Marquises, mais le titre n'est pas donné, qui n'est pas indiqué sur l'album. Enfin, on lui donne ce titre à cause de cette dernière chanson de l'album que Brel avait écrite et composée là-bas, aux Marquises, qui est venu à Paris, ou est allé à Paris enregistrer pendant quelques jours, simplement. Et c'est vraiment une réussite.
Bonjour Freddy Hidalgo.
Bonjour.
Oui, merci de te joindre à nous, c'est sympa. Transatlantique, comme Brel était transatlantique et transpacifique, lui-même est allé tout à fait là-bas en voyer, quasiment en solo, un énorme voyer qui pilotait, bien qu'il sorti d'une opération difficile.
En fait, il est parti du port d'Anvers en juillet 74 et il se trouvait en parfaite santé. Et le problème, c'est que 3 mois après son départ exactement, donc il a été saisi d'un point dans la poitrine brutalement. Il était en escale aux Canaries et là, on a dû le rapatrier en Europe, à Genève exactement, où on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Alors que Jacques Brel partait sur son voilier pour réaliser un rêve d'enfance qui était de faire le tour du monde à la voile, mais pendant 5 ans. C'était ça son projet au départ. Et donc la maladie, évidemment, a bouleversé les choses. Mais ce qui est incroyable, ce qui montre bien la force de caractère de cet homme, on connaissait l'énergie de l'artiste, mais l'homme, c'était encore plus fort à mon avis, c'est que 1 mois et demi après l'opération, tout juste 1 mois et demi après, il remontait sur son voilier pour traverser l'Atlantique tout seul avec sa femme et sa compagne.
Mais c'est pas évident.
C'était assez extraordinaire parce que lui, évidemment, comme il faisait les choses à fond toujours, il avait déjà pris des cours, il avait déjà traversé l'Atlantique sur un navire école, il avait son brevet de skipper, mais sa compagne et sa fille, c'est-à-dire Madly et France, n'avaient jamais voyagé sur la mer, donc étaient des marins, on peut dire, totalement inexpérimentés.
Même pas d'eau douce.
Comment ?
Même pas d'eau douce, pas marin
non,
du tout.
Non, même pas d'eau douce. Et puis en plus, ce que tous les professionnels ont dit à Jacques Brel avant de s'en aller, c'est que le bateau pour lequel il avait eu un coup de cœur, la Skoy, qu'il a acheté à Anvers, était beaucoup, beaucoup trop lourd pour ce genre de traversée. Il pesait 42 tonnes, alors que, par exemple, le voilier qu'Éric Tabarly avait utilisé lui-même pour sa fameuse Transat, pesait quelque chose comme 18 tonnes.
42 tonnes, mais c'est lourd. Moins. C'est un très gros camion.
Et mener tout ça, pratiquement avec un bras gauche inutile, c'est un exploit.
Voilà. Alors, voilà, il était donc handicapé quand même physiquement, puisqu'il venait, on venait à l'époque de lui scier les côtes, de lui enlever quasiment un poumon, et puis donc deux femmes assez inexpérimentées. Là, il traverse l'Atlantique. À ce moment-là, sa fille France débarque à Fort-de-France, aux Antilles, et elle rentre d'ailleurs en Belgique pour terminer ses études. Elle faisait des études d'assistante sociale. Et puis Jacques et sa compagne Madeleine continuent le voyage tout seuls, tous les deux à bord, sans matelot, alors qu'au départ à Anvers, ils étaient partis avec deux matelots, mais qui eux aussi étaient vraiment inexpérimentés. Ils ont été débarqués aux Açores. Et donc, il part avec Madeleine, il rejoint progressivement le canal de Panama. Et le 22 septembre, comme dirait Brassens, le 22 septembre, il se lance dans la traversée du Pacifique sans escale, parce que tous les marins qui arrivent là à Panama et qui veulent traverser le Pacifique à la voile font d'habitude escale aux îles Galapagos. Et à l'époque, les Galapagos, donc qui appartiennent à l'Équateur, c'était une dictature militaire. Et Brel, on le connaît bien, il avait déclaré à ses amis avant de s'en aller que jamais il ne poserait les pieds sur un pays qui était dirigé par des militaires. Donc il est passé au large des Galapagos et il est parti vraiment en ligne droite jusqu'aux Marquises, qui est il faut quand même le préciser, l'archipel au monde le plus isolé qui soit d'un continent. Oui. 7500 kilomètres sans escale. Voilà son voyage. Et donc, il arrive le 19 novembre 1975, il arrive dans la baie de Divaoa, qui est une des îles du groupe sud de l'archipel des Marquises, et qui est un archipel qui se trouve lui-même à 1500 kilomètres de Tahiti, qui est en quelque sorte le chef-lieu de la Polynésie française. Donc c'est à la fois très loin du continent américain, mais c'est aussi très loin du centre administratif de la Polynésie française.
Si on voulait s'isoler, on ne pouvait pas trouver mieux. Ce livre...
Non, voilà.
Ce livre...
Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il va s'installer sur place. En fait, il y a trois raisons. Hein. La première, c'est qu'il est épuisé par le voyage, et ça on le comprend. Dans l'état où il était, tout seul avec Madeleine, et puis sur un bateau beaucoup trop lourd. Et en plus, pendant la traversée du Pacifique, ils sont tombés dans ce que les marins au long cours appellent le pot au noir, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus eu de vent, et le bateau est resté immobile une dizaine de jours de plus que prévu pour cette traversée. Et donc, ils ont mis 2 mois, 59 jours à effectuer la traversée. Et c'est donc... c'était vraiment pas évident. Ils arrivent tous les deux complètement épuisés à Ivaoa. Et puis là, Ivaoa, très vite, mais vraiment dans les 24-48 heures, Jacques Brel est ébloui par l'île. Ça n'est pas une île comme on peut s'imaginer, paradisiaque, avec les lagons, les bleutés, les anneaux coralliens, les cocotiers, etc. C'est tout le contraire. C'est une île telle qu'il l'a décrite dans sa chanson, avec un relief très découpé, des récifs, des montagnes. C'est vraiment une île. Stevenson s'était arrêté sur cette île en 1888 et il avait déclaré que c'était, il a même écrit que c'était de loin l'île la plus jolie et l'endroit le plus inquiétant au monde qu'il ait jamais connu. Voilà pour situer l'endroit.
Et Brel aussi, il s'est plu parce que personne ne le connaissait là-bas. On ne savait pas qui c'était.
Exactement. Ça, c'est la troisième raison. la fatigue d'abord, l'éblouissement quand il découvre Ivaoa, et puis surtout, alors dès qu'il arrive, comme tous les marins au long cours, il avait prévu de se faire envoyer son courrier, le courrier de sa famille, de ses amis, en poste restante à Ivaoa, parce que c'était vraiment l'endroit de son escale qui était prévu, et après il devait continuer par Tahiti, les Fidji, enfin continuer son tour du monde. Et là, il va chercher son courrier à la poste et le postier ne le connaît pas. Alors, il est évidemment à la fois surpris et agréablement surpris en plus, parce que il faut dire que du jour où il avait été opéré, les paparazzi lui ont mené la vie dure en essayant de le photographier d'abord au Canaries, d'abord à Bruxelles lorsqu'il s'est fait opérer, après au Canaries lorsqu'il est remonté sur le bateau, ensuite arrivé aux Antilles. Enfin, il était vraiment pourchassé. Et là, Jacques Brel n'avait qu'une envie, c'était de se reposer un petit peu, et, si possible dans un endroit où on le connaîtrait pas trop. Et alors là, il a été servi aux marquises, parce que personne, mais absolument personne, à part une sœur qui était là, et puis un professeur français, donc, mais tous les marquisiens, pour eux, Jacques Brel, ça ne voulait absolument rien dire. Ils ne le connaissaient ni comme chanteur, ni comme acteur de cinéma. Et quand on va sur place, on comprend bien pourquoi, parce que là-bas, il n'y avait quasiment pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, évidemment, il n'y avait pas de cinéma. C'était vraiment la nature vierge, comme à la création du monde, quasiment.
Alors, ce nouveau livre, Fred Hidalgo, c'est Jacques Brel, l'aventure commence à l'aurore, pour reprendre un titre d'une des premières chansons de Brel. Est-ce que c'est l'histoire principalement du chanteur, de l'acteur, du marin, ou les trois?
Alors, non, jamais je n'aurais écrit une nouvelle biographie de Brel, parce qu'il en existe déjà trois ou quatre qui sont excellentes. Et puis, j'estime qu'on ne peut rien ajouter de plus en ce qui concerne le Brel, l'artiste, hein, le chanteur, l'acteur, le metteur en scène, etc. Et d'ailleurs, quand je me suis rendu aux Marquises, c'était évidemment sur les traces de l'homme, Jacques Brel, pour voir si l'homme était conforme à l'artiste, en quelque sorte, à l'œuvre magnifique qu'il avait écrite, mais c'était sans aucune idée préconçue, et en tout cas pas celle d'écrire un livre. Mais arrivé sur place, et ça a été une immersion totale, on est resté longtemps, ma chère et tendre, comme dirait Brian et moi, sur place, on a vraiment été extraordinairement surpris par tout ce qu'on a appris sur place, par tous les témoignages que l'on a recueillis, dont un certain nombre totalement inédits de gens qui n'avaient jamais voulu parler de la vie du temps de Brel, quand il côtoyait au quotidien. Et on s'est rendu compte que l'homme là-bas était quelqu'un d'absolument extraordinaire au plan... il disait que il avait mal aux autres, hein, du temps où il était artiste, et là-bas il s'est mis complètement au service des marquisiens, qui étaient complètement oubliés dans leur développement, aussi bien au plan sanitaire qu'au plan culturel, qu'au plan des infrastructures. Et donc ce livre, ça a été, à partir du moment où j'ai pris la décision de l'écrire, c'était une urgence de raconter la vie que Jacques Brel a connue là-bas, parce que d'une part, elle est absolument extraordinaire, c'est un véritable roman d'aventure. Il se transforme, il s'incarne à la fois en Don Quichotte, en Mermoz, en Saint-Exupéry, mais vraiment, réellement, dans la pratique. Et surtout, donc, c'est une vie totalement méconnue qui fait que, rétrospectivement, on a l'impression qu'il a vécu là-bas tout ce qu'il avait écrit en chanson auparavant, c'est-à-dire ce qu'il avait dit en parole, et les paroles, on sait que ça s'envole, même quand il y a des musiques derrière. Là-bas, il l'a vécu dans les actes. Et donc, quand les gens pensent que les marquis, ça a été simplement l'aboutissement de sa vie, qu'il est mort, il est mort à Paris, mais sa dépouille a été rapatriée tout de suite et il était enterré aux marquises. Moi, au contraire, j'y vois vraiment comme l'accomplissement de la vie de Jacques Brel, l'accomplissement de son œuvre, et ce qui le rend totalement unique dans l'histoire de la chanson francophone, c'est que Jacques Brel a vécu aux marquises pendant 3 ans tout ce qu'il théorisait dans ses chansons.
Tout ce qu'il rêvait aussi.
Et tous ses rêves, évidemment. Il partait pour ça, pour réaliser ses rêves. Hein, Lui, pour lui, il n'y avait rien de pire que l'immobilisme. Et d'ailleurs, dans l'une des chansons qu'il écrit aux marquises, c'est celle qu'il consacre à son ami Jojo, son grand ami, qui est mort pendant que Jacques Brel était parti sur les mers. Hein. Il est mort 2 mois après le départ de Jacques Brel d'Anvers. À un moment donné, il lui dit dans la chanson « Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence ». Et Jacques Brel, c'est ça, c'est toute sa vie, et en particulier cette dernière partie de sa vie, ça a été de mettre en pratique ce que j'appelle dans le prologue du livre son principe d'imprudence.
Ouais, bah, écoutons la chanson Jojo, donc dédiée à son ami décédé.
Jojo sur un WMBR Cambridge, par Jacques Brel, de son album sorti en 1977. Et juste après, on entendra une réaction d'un auditeur qui découvre cet album, justement, en 1977. Et puis on rebondira peut-être sur ses commentaires.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Cinqa doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. 6 pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas. Je te dis mort au con, bien plus con que toi, mais qui sont mieux portant. Jojo, tu sais le nom des fleurs, tu vois que mes mains tremblent. Et je te sais qui pleure pour noyer de pudeur mes pauvres lieux communs. 6 pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, je te quitte au matin pour de vagues besognes. Parmi quelques ivrognes, des amputés du cœur qui ont trop ouvert les mains. Jojo, je ne rentre plus nulle part, je m'habille de nos rêves. Orphelin jusqu'aux lèvres, mais heureux de savoir que je te viens déjà. 6 pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore.
On ne pouvait terminer cette émission, cette actualité du disque, sans parler du nouveau Jacques Brel. 12 nouvelles chansons écrites avec des mots simples, mais des mots qui vous prennent le cœur, qui vous arrachent des larmes. François Mitterrand, vous avez écouté ce disque de Jacques Brel, ce disque d'un homme qui a choisi l'exil parce qu'en réalité, je crois, il crève de solitude.
J'en ai fait reçu ce disque hier, comme tous ceux qui l'ont reçu, et je l'ai écouté simplement ce matin. J'avais grande envie de l'entendre. 10 ans de silence, c'est long. Jacques Brel, je l'ai connu lorsqu'il était présent dans nos capitales d'Europe, spécialement à Paris. Beaucoup de choses nous avaient réunis. Et les thèmes que je retrouve dans le disque d'aujourd'hui formaient déjà le fond de sa conversation. La différence, c'est que maintenant il a vécu tout ce qu'il dit. Il se contentait à l'époque de le projeter. Maintenant, c'est sa vie, c'est sa solitude, c'est son voyage, ce sont ses questions. Et la dimension naturelle que prend cette musique, que prennent ses paroles, est d'un tout autre ordre, à mon sens, tout en développant les qualités qui sont les siennes, d'un tout autre ordre que ce que nous avons connu naguère.
François Mitterrand parlant du disque de Jacques Brel, Les Marquises, sorti en 1977. Fred Hidalgo.
C'est un témoignage très très important que j'ai repris in extenso dans le livre, parce que le livre en gros couvre donc les quatre dernières années de Jacques Brel, c'est-à-dire aussi la période pendant laquelle il écrit les chansons à Ivaoa et pendant laquelle il revient à Paris enregistrer cet album. Et une fois l'album enregistré, et au passage, je voudrais simplement dire que il enregistrait en direct avec ses musiciens et jamais plus de trois prises. Et la dernière chanson de l'album, ça a été aussi la dernière chanson enregistrée, c'était celle des Marquises. Il n'y a eu qu'une seule et unique prise. Vous vous rendez compte? Ce chef-d'œuvre que tout le monde connaît aujourd'hui, ça a été enregistré en 5 minutes en tout et pour tout. Et donc, Brel repart immédiatement après l'enregistrement. Il avait bien dit à son producteur qu'il voulait que le disque sorte sans publicité, sans aucun matraquage, et que lui-même ne participerait pas à sa promotion. Donc, il était déjà reparti pour les Marquises. Mais son producteur lui avait dit, mais si jamais à la télévision, quelqu'un nous proposait de parler du disque, il faudrait que ce soit un journaliste, quelqu'un qui connaisse bien votre œuvre. Et Brel lui avait dit, bon, attendez, dans ce cas, je veux bien qu'on envoie l'album 24 heures avant sa sortie à une personne, et une seule, et ce sera François Mitterrand. Et si François Mitterrand a envie éventuellement de parler de l'album, selon les termes qu'il voudra, libre à lui, voilà. Donc c'est pour expliquer que c'est François Mitterrand qui est allé sur Antenne 2 à l'époque, c'était le 19 novembre 77, pour parler de l'album de Jacques Brel. Et ce qu'il dit dans l'introduction qu'on vient d'entendre est fondamental, et ce qui est, ça rejoint, j'allais dire, la thèse de mon livre, sans laquelle, encore une fois, je ne l'aurais pas écrit. C'est qu'il dit la différence entre les thèmes de ces chansons que l'on connaissait déjà, qui grosso modo étaient les mêmes avant que dans ce dernier album, c'est qu'entre-temps, il a vécu vraiment dans les faits ce qu'il se contentait de projeter auparavant. Et là, j'ai trouvé, quand je me suis repenché sur le témoignage de Mitterrand, que c'était exactement ce qui s'était passé. Brel, entre-temps, avant l'écriture de ses chansons, avait vécu sur le terrain tout cet amour, cet altruisme, cet humanisme qu'il dégageait déjà de son œuvre. Parce qu'il faut dire qu'arrivé aux Marquises, il a abandonné le bateau, il s'est acheté un avion, parce que les Marquises étaient donc loin, très loin de tout, et il n'y avait qu'un cargo qui faisait la navette entre Tahiti et l'archipel une fois par mois pour les ravitailler en vivres, en médicaments, bon, toutes sortes de choses. Et Jacques Brel s'est acheté un avion pour désenclaver les Marquises, et du jour au lendemain, eh bien, il s'est transformé en facteur déjà, c'est-à-dire alors que les gens ne recevaient pas dans toutes les villes, mais certaines villes de l'archipel leur courrier qu'une fois par mois. Lui, il est allé le chercher pour qu'il l'ait toutes les semaines. Il est allé le chercher jusqu'à Papeete, donc 3000 km aller-retour. Et puis surtout, il s'est transformé en avion-taxi pour effectuer des évacuations sanitaires de malades, des femmes enceintes quand l'accouchement s'annonçait délicat, plein de choses comme ça. Une fois, il a même sauvé la vie d'un jeune enfant qui n'aurait pas passé la nuit. Et il a demandé, ce qui ne s'était jamais fait évidemment, il a demandé à ses amis d'Atouona, qui est donc la principale bourgade d'Ivaoa, de monter sur la piste, qui est à 700 mètres d'altitude, en pleine nuit, et de l'éclairer avec leur voiture, c'était des Jeep, des 4x4, pour que lui puisse décoller avec l'enfant et l'emmener aussitôt à Papeete, parce qu'évidemment, il n'y avait ni tour de contrôle, ni balise, ni rien du tout. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'électricité. Et là, c'est là qu'il s'est transformé véritablement en mer mauve. C'était l'époque de l'aéropostale, les évacuations sanitaires, etc.
Ça rappelle une scène de L'Espoir, roman de Malraux sur la guerre d'Espagne, où tous les villageois éclairent la piste.
Exactement. Oui, c'est très très bien vu. Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Ben, il l'a connu, ça. Et puis il s'est rendu, par exemple, pour donner juste un autre exemple, dans une autre île de l'archipel qui s'appelle Huapu, où personne n'avait jamais atterri avant lui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait quand même un vol de, ça s'appelait Air Polynésie à l'époque, c'était un tout petit avion qui faisait la navette entre Tahiti et Ivaoa. Et donc, la plupart des îles de l'archipel n'étaient pas desservies par cet avion. Et Jacques Brel, à un moment donné, parce qu'il y avait des urgences aussi sanitaires, s'est dit « mais moi, j'y vais ». Et les témoignages qu'on a recueillis sur place, et après, on est allé voir la piste. Bon, la piste, c'est un grand mot, hein. C'était simplement une espèce c'était un champ d'herbe. Avec la montagne sur le côté, la montagne au bout, et en plus, elle se recourbait. Et lorsqu'il atterrissait, il passait avec sa radio un message au représentant des travaux publics qui était sur l'île, en lui disant « attention, j'arrive dans une heure », etc. Le représentant des travaux publics montait sur la piste, entre guillemets, avec son 4x4, pour aller chasser les chevaux sauvages qui étaient en train de paître sur la piste pour permettre à l'avion d'atterrir. Il a pris des risques insensés sur place. Bon, c'était également son plaisir, parce qu'il adorait l'avion. Il avait passé tous les brevets de pilote depuis des années déjà. Mais faire de l'avion pour de l'avion, il se serait très vite ennuyé. Et en fait, il s'est vraiment mis au service des Marquisiens sur tous les plans.
Ouais, c'était une belle histoire.
Oui. Et puis là-bas, donc, il ne faudrait pas croire que Jacques Brel fuyait le monde. Pas du tout, il fuyait la célébrité. Ça, il avait complètement tourné la page. Mais il adorait le contact avec les gens. Jamais il n'a refusé de rencontrer qui que ce soit. Il avait plein d'amis aux Marquises et à Tahiti. Il les invitait le soir parce qu'entre-temps, il avait appris la cuisine. Et tous les témoignages qu'on a recueillis sur place nous disent que c'était vraiment un grand chef. C'était devenu un grand chef qui faisait des plats extraordinaires. Il adorait quand les enfants venaient le voir sur la piste, lui demander des renseignements sur son avion, parce qu'il découvrait l'avion, etc. Donc il était vraiment à la disposition de tout le monde et il adorait le contact, évidemment, et discuter. Et il avait une quantité de projets que tout le monde, je pense, ignorait, moi le premier ici. C'est-à-dire qu'il avait déjà, par exemple, pris un bail pour un terrain sur 99 ans où il voulait se faire construire une maison. Et puis de là, bien installé sur place, il voulait monter une compagnie d'avions-taxi justement pour désenclaver les Marquises. Il avait demandé au maire de l'époque de déposer le titre d'Air Marquise. Il avait des projets de spectacle, alors pas lui, pas pour chanter, mais il les aurait présentés sûrement, pour que enfin les gens des Marquises aient des spectacles, soit de théâtre, soit de chansons avant Tahiti. Et bon, je donne tous les détails. Il avait demandé du matériel, son et lumière à Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia. Enfin, il avait beaucoup, beaucoup de projets que l'on ignore complètement, que l'on ignorait, en fait, je pense, jusqu'à ce voyage qui a duré un mois et demi à peu près, en ce qui nous concerne.
Oui, mais tu as écrit aussi dans ton livre que Brel n'avait aucun disque, aucun de ses disques là-bas, aucune photo de scène, rien qui ne rappelle son passé de célébrité, de grande vedette de la chanson. Il passait la musique classique il chantait chez lui, surtout quand il composait ses nouvelles chansons, etc. Mais il n'y avait rien qui rappelle son passé de star.
Il avait complètement tourné la page. Il n'avait évidemment aucune vanité, aucun orgueil par rapport à la célébrité qu'il avait été. Il est parti en pleine gloire, en plein apogée. À un moment donné, il a décidé que Pas la chanson, parce que la chanson, il continue à écrire des chansons, ça c'était prévu. Il savait que même pendant son tour du monde de 5 ans, il avait prévu de donner environ un album tous les 18 mois à son producteur, donc de rentrer par avion pour enregistrer un nouvel album. Et sur place, alors ce que l'on a découvert aussi, que l'on ignorait totalement, c'est qu'après l'enregistrement de l'album des Marquises, il continuait à écrire des nouvelles chansons, et il avait bien l'intention de les enregistrer, si l'issue n'avait pas été fatale, quoi. Et donc, oui, il a, à partir du moment où il avait décidé d'arrêter le tour de chant, il s'est lancé dans l'aventure du cinéma en tant que comédien. Après, il a arrêté ça pour se lancer dans le travail de metteur en scène, pour voir... tout ça, c'était des rêves d'enfant qu'il avait. Il a arrêté ce travail de metteur en scène avec ses deux films, France et Le Far West. Il a monté sa comédie musicale sur Don Quichotte, l'homme de la Mancha, qui était un personnage qui le poursuivait depuis son enfance, Don Quichotte. Et à chaque fois qu'il avait accompli un de ses rêves, eh bien, il passait au suivant. Et le suivant, c'était le tour du monde à la voile. Et puis, comme il a décidé de s'arrêter aux Marquises, après, c'était l'avion, et puis se mettre au service des gens, sans parler du tout de ses vies précédentes. Quand il rencontrait les gens qui les invitaient le soir, par exemple les pilotes qui passaient une fois par semaine, jamais, hein, les pilotes, on les a rencontrés, jamais il ne leur a parlé de sa vie d'avant. Et jamais non plus les gens sur place ne lui en ont parlé parce qu'il avait trop de respect pour l'homme.
Fred Hidalgo, merci. On parle donc aujourd'hui de Jacques Brel, ces trois, quatre dernières années passées dans le Pacifique, aux Marquises. On se retrouvera dans quelques instants après le calendrier, n'est-ce pas Brian?
Entendu.
We come back now to Jacques Brel, the theme of today's show. Fred Hidalgo, reporter and author of a new book about Jacques Brel's final years in the Pacific, is our guest. Let's listen to a song from that last album that Jacques Brel put out in 1977. It is called Jaurès. It is about the generation of workers, the working class in the early part of the 20th century, and the conditions that they had to endure, and the question, why did they kill Jaurès? Jaurès was the leader of the French Socialist Party in 1914 when he was assassinated, and then we'll hear the leader of the Socialist Party in 1977 with his reaction to the songs on that album.
Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Ces 12 chansons, vous les avez toutes écoutées?
J'ai écouté les deux faces du disque et je me suis arrêté spécialement à quelques-unes d'entre elles. Certaines reprennent les thèmes d'autrefois en les accentuant.
Vous pensez au flamingo?
Oui, ça m'a intéressé parce que c'est à la fois pittoresque et puissant. Mais ce n'est pas ça qui m'a retenu le plus. Et ne croyez pas du tout que ce soit par une familiarité politique, mais la chanson sur la mort de Jaurès a quelque chose, une sorte de mélopée avec l'accompagnement, je crois, d'accordéon.
Oui, Marcel Azola, donc.
Une volonté d'épouser le rythme de l'époque tout en signifiant la grande complainte d'un peuple qui souffre et qui espère. C'est extrêmement fort. Et puis aussi, tout ce qui se touche à sa vie actuelle, c'est-à-dire à sa solitude. Solitude, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire face à soi-même et aux quelques problèmes qui restent, c'est-à-dire celui de la vie, celui de la mort. Et Brel, il s'est placé dans cette situation. Alors, les marquises, là, on voit tout d'un coup, c'est l'univers, ces petites îles comme ça répandues dans cet immense Pacifique, qui n'est pas si pacifique que soi. Que ça, c'était évidemment la réflexion devant la violence des choses. L'homme tout seul devant la force des éléments.
Et Brel face aux femmes?
Face aux femmes, je ne connais pas plus que ce qu'il en dit. Et il garde,
c'est pas très aimable.
Il garde certaines impertinences. Et puis, il juge, selon l'expérience sans doute qu'il en a eue. Puis aussi, il y a cette veine qu'on retrouve dans notre Moyen-Âge, qui fait que quoi qu'en pense l'auteur en vérité, quelle que soit sa vie que j'ignore, et c'est un thème constant, à la fois de plaisanterie, de chansons et de caricature. Et je crois que là, Brel se complaît à la caricature en lui donnant toute la force du chant populaire. Ce n'est pas une philosophie. J'aperçois davantage sa philosophie à travers le spectacle que lui donne la société ou la non-société qu'il a finalement choisie.
Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans tout ce disque?
Je ne peux pas dire. Je pense que le Marquise, c'est le Brel d'aujourd'hui, donc c'est celui qui m'a le plus intéressé.
C'est la carte postale qu'il nous envoie.
Une carte postale où il y a à la fois le chromo des cartes postales et la profondeur de la photographie que l'on ne veut pas voir en tant que carte postale parce que c'est soi-même qui l'a prise. Les photographies que l'on prend, même si on est simplement un amateur très modeste, on serait très choqué si on vous disait « mais c'est une carte postale ». On serait fâché de faire aussi bien qu'une carte postale. Eh bien, Brel fait à la fois moins bien qu'une carte postale parce qu'il évite la figuration stéréotypée, mais il va tellement plus loin que la carte postale que c'est un poème, c'est tout. Une carte postale qui atteint la dimension du poème, c'est pas mal.
François Mitterrand, en 1977, réagissant à la sortie du disque Les Marquises de Jacques Brel, et nous retrouvons en direct de France Fred Hidalgo pour nous parler de son nouveau livre, Jacques Brel, l'aventure commence à l'aurore.
Oui, bonjour Fred.
Je suis là. Oui.
Donc, comment tu réagis à cette évaluation de Mitterrand? Il semble être vraiment quelqu'un qui écoute, vraiment. Il a écouté sans doute une seule fois le disque ce matin même où il réagit à l'antenne, à la télévision en France, mais il semble avoir bien saisi la portée de l'album.
Ah, tout à fait. Hein. Tout ce qu'il dit sur cet album est extrêmement pertinent, très juste. Il faut dire qu'il connaissait Jacques Brel depuis longtemps. Déjà en 1967, en février 67, il y avait eu des élections législatives en France, et Jacques Brel, on ne le sait pas trop, mais avait soutenu la candidature de Pierre Mendès France à Grenoble. Il était allé chanter pour lui, d'ailleurs, et non pas parce qu'il se considérait socialiste ou il n'était pas engagé dans un parti, mais simplement Jacques Brel a toujours pris le parti de l'humain contre l'inhumain. Et donc, il a toujours considéré que, voilà, il y avait des hommes de progrès qui se battaient pour la fraternité humaine et puis l'amélioration du sort des moins bien lotis. Hein, c'est la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, Jaurès, mais il en a écrit quantité d'autres comme ça. Et donc, Mitterrand, il l'avait rencontré dès l'époque, dès 1967. Alors, il ne le connaissait pas intimement, mais il se croisait, il se connaissait. Et Mitterrand, donc, je pense, avait déjà un jugement très, très pointu sur Jacques Brel, sur l'artiste. Et là, quand il reçoit cet album, il lui suffit effectivement d'une seule écoute le matin même pour comprendre toute la profondeur qu'il y a dans cet album. Quand il parle des marquises, effectivement, il a tout à fait raison, c'est moins bien ou c'est beaucoup mieux qu'une carte postale. Et c'est exactement ce que l'on rencontre sur place. D'ailleurs, on a rencontré les sœurs, par exemple, enfin certaines des sœurs qui restent, dont il est question dans la chanson, quand il dit que les sœurs passent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer.
Oui, ça, c'est bon.
Et là, François Mitterrand parle aussi de l'écriture à un moment donné de Jacques Brel en disant qu'elle n'a jamais été aussi pointue, aussi affinée, affûtée. Et c'est vrai qu'on a l'impression que plus ça allait, plus Jacques Brel dépassait des sommets dans l'écriture. Parce que ça, on ne le dit pas trop. On parle beaucoup de Brassens, évidemment, grand écrivain de chansons. Mais Jacques Brel était aussi un poète formidable. Et là, aux Marquises, on a découvert en plus, grâce à deux brouillons de chansons enregistrées que nous ont confié un ancien ami de Jacques Brel. C'était lui qui s'enregistrait d'ailleurs, puisque contrairement à l'époque où il écrivait des nouvelles chansons sur la route, toujours avec ses musiciens entre deux galas le soir, là, aux Marquises, il n'avait quasiment personne pour lui renvoyer des échos de ce qu'il était en train de faire. Donc il s'enregistrait lui-même dans son petit salon, il s'accompagnait à l'orgue électronique et à la guitare, et on a retrouvé deux chansons, le brouillon de Jojo et puis le brouillon de La ville s'endormait, et on se rend compte qu'il y a un travail énorme entre l'idée initiale et puis les chefs-d'œuvre que l'on connaît au final. Donc ça voulait dire que Jacques Brel travaillait énormément entre le moment où il s'attelait à son travail et puis le moment où il mettait un point final, mais avec jusqu'à trouver justement le mot le plus juste, il remettait mille fois sur le métier son travail.
Oui, tu soulignes dans ton livre que pour Brel, c'était 1% d'inspiration, 99% de transpiration, qui travaillait, remettait sur le métier, et jusqu'à ce que ça soit vraiment ce qu'il voulait.
Voilà. Et ça, donc cette formule, on la connaissait depuis l'époque où il était artiste, mais sur place, en trouvant ces deux brouillons de chansons, alors j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire, parce que effectivement, il avait l'idée de départ, ça c'était de 1% d'inspiration, sa chanson sur Jojo, par exemple, qui était la première à laquelle il s'est attelé pour ce nouvel album, parce que Jojo était mort, et il voulait absolument lui consacrer une chanson en son hommage. Et il a bloqué pendant 6 mois sur cette chanson-là. Et pendant les 6 mois qui ont suivi, il en a écrit 14 ou 15. ça a coulé, pas tout de suite, parce qu'il travaillait beaucoup. Mais il lui a fallu 6 mois pour terminer Jojo. Et on voit justement que c'est 99% de transpiration. Ça, il travaillait énormément. On a l'impression que c'est facile quand on écoute la chanson aujourd'hui. Mais quand on écoute ce document, puisque c'est Jacques Brel qui chante en s'accompagnant lui-même, avec une voix formidable d'ailleurs, hein, malgré le poumon en moins, parce que des gens ont dit que lorsque son album a été enregistré à Paris, ça avait été un petit peu trafiqué à l'enregistrement, parce qu'il aurait eu un voile sur la voix et qu'il aurait fallu le faire disparaître. Tout ça est faux. Avec une petite cassette enregistrée sur un petit magnétophone, sur place, on se rend compte qu'il avait une voix plus claire que jamais. Et en fait, j'ai rencontré parmi les gens qu'il connaissait bien, qui se demandaient, y compris son musicien Gérard Joannès, son compositeur et pianiste, qui ne comprenait pas pourquoi il avait une telle voix à Paris lors de l'enregistrement des Marquises. C'est tout simplement que du jour où il a arrêté, où il a été opéré de son poumon, il a arrêté net de fumer. Jusque-là, il fumait 4 à 5 paquets de cigarettes par jour, et du jour au lendemain, il a arrêté de fumer. Et je ne vois pas d'autre explication pour expliquer la nouvelle clarté de sa voix.
Mais elle est extraordinaire, effectivement.
C'est vrai que ce disque, oui. Les Marquises, est incroyablement, fait preuve d'une grande maturité, incroyablement accomplie. Il n'y a qu'à lire la liste des chansons pour se dire que ce sont toutes des chefs-d'œuvre dont on se souvient. Il y a Jaurès, on a entendu, on n'aura pas le temps de les écouter toutes aujourd'hui, mais il y a La ville s'endormait, Vieillir, Orly, Voir un ami pleurer, c'est tout superbe.
Oui, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Pour moi, c'est son album le plus abouti, le plus accompli. À part peut-être deux ou trois chansons, que j'aurais préféré qu'il mette certaines des inédites à la place, comme La cathédrale, par exemple. La cathédrale, c'est une chanson magnifique, où il raconte son parcours à la voile depuis Anvers jusqu'à l'arrivée à Ivaoa. C'est vraiment une chanson magnifique. Flamingant, par exemple, il avait un compte à régler, donc ça c'était très personnel.
En 77, quand il est venu à Paris pour enregistrer ce disque, il y a 5 chansons qui n'ont pas été éditées et qui sont sorties finalement en 2003. Ça a un petit peu fait controverse d'ailleurs, parce qu'on savait pas si c'était une bonne idée de sortir des chansons dont Jacques Brel ne voulait pas la publication.
Oui, parce qu'elles ont été jugées non abouties par lui et puis par ses deux musiciens, Gérard Joannès et François Robert. Alors, il y a 3 chansons auxquelles ils ont collaboré tous les 3, et puis 2 autres, dont La cathédrale et Mai 40, que Jacques Brel a écrites par les musiques tout seul. Franchement, Mai 40 et La cathédrale, pour moi, sont des chansons quasiment définitivement aboutie, mais Jacques Brel en avait décidé autrement. Enfin, oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'incertitudes, sachant qu'à l'époque, un album 30 cm, c'était 12 chansons. Donc, même si vous avez des chansons qui vous paraissent abouties, à partir du moment où vous en avez 17 au lieu de 12, il faut bien faire des choix. Donc, il a choisi peut-être Les Marquises plutôt que La cathédrale, etc. Mais il y en a 3, effectivement, que Jacques et ses deux musiciens considéraient comme non aboutis. En fait, je pense plutôt au plan des arrangements et puis de la musique. Il y a une chanson en particulier, L'amour est mort, qui est une maquette, en fait, qui est enregistrée en piano-voix, simplement. Et là, François Robert n'avait pas eu le temps d'écrire les arrangements. Donc, elles seraient sorties. Elles n'ont pas été mises de côté parce que Brel ne les jugeait pas bonnes, mais simplement pas terminées. Et elle serait sortie dans l'album suivant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jacques Brel continuait d'écrire des chansons. Et ces chansons-là seraient sorties un an. Charlie Marouani, son imprésario, m'a dit qu'elles seraient sorties l'année suivante ou un an et demi plus tard ou 2 ans. Mais qu'elles seraient sorties de toute façon.
Jacques Brel, c'est également quelqu'un qui a très bien chanté l'amour. Ne me quitte pas quand on n'a que l'amour.
J'aimerais revenir à une chanson
sur une chanson d'amour, n'est-ce pas?
Voilà, la chanson des vieux amants, puisque Fred et sa douce et tendre, comme il dit, comme je dis aussi, Morissette sont partis là-bas pour fêter leurs 40 ans de mariage il y a 2 ans, et c'est aujourd'hui même. N'est-ce pas, Fred?
Exactement, le 2 octobre 2011, on était à Ivaoa. C'est incroyable.
Il se trouve que Yves et Agathe, son épouse, aiment beaucoup cette chanson également. Donc, écoutons la chanson des vieux amants.
Bien sûr, nous eûmes des orages, vingt ans d'amour. C'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau. et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Sortilège, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre.
Jacques Brel, la chanson des vieux amants, pour le 42e anniversaire de mariage de Fred Hidalgo et Morissette.
Bravo.
Félicitations.
Merci beaucoup pour l'attention, surtout avec cette chanson qui est un véritable chef-d'œuvre.
Fred Hidalgo, je vous rappelle, c'est l'auteur tout récemment de Jacques Brel, L'aventure commence à l'aurore.
Voilà, merci encore de nous avoir retrouvés pour cette édition de French Toast sur la dernière aventure de Jacques Brel. On a un peu partagé sa musique, des souvenirs et puis une visite des îles du Pacifique.
Et surtout, si vous le permettez, je dirais que d'avoir découvert cette vie de Jacques Brel là-bas dans le détail, ça ajoute énormément à son œuvre, parce qu'on ne peut qu'apprécier davantage encore quand on sait ce qu'il a vécu là-bas. On se dit que vraiment ça n'était pas de la frime tout ce qu'il avait écrit avant, il l'avait vraiment en lui enfoui, et là-bas il a mis en pratique tout ce qu'il avait dit en théorie, et ça ne fait que justifier encore plus l'admiration qu'on peut avoir pour Jacques Brel.
Merci encore Fred, et à bientôt en France.
Merci, à bientôt, j'espère.
Merci et au revoir. Thank you so much for listening to French Toast with Freddy Hidalgo, our guest today. This has been 2 hours of music from the French-speaking world on Wednesdays from 6 to 8. And in fact, we will be welcoming a new program to WMBR Cambridge next week. And thank you so much, Henry, for being so accommodating and allowing us to have this interview today. Building 10 will now be on from 7 to 8. French Toast is moving from 6 to 7 on Wednesdays. And Building 10 will be a program with 10 question interview of different people on various topics. You'll be discovering that starting next week. You can find us online at wmbr.org and listen to this show anytime you wish.
Just a note, if you mm-hmm. download the show as a podcast, there are about 2 minutes of silence at the beginning, so don't despair.
Don't despair. That's because we start at 8, at 6, but the show, the recording starts at 5:58. Thank you so much for listening to WMBR Cambridge, and stay tuned for TED and the Breakfast of Champions after these messages. Au revoir.
Bonne semaine.